Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix d'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Ces auditeurs et auditrices, ce soir, le programme commencera par le journaux, suivi de la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, Focus. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs et auditrices de la voix d'Indonésie à Jakarta, voici les journaux aujourd'hui. L'Institut français d'Indonésie IFI organise le Festival Printemps français en 2016 à réunir les musiciens de France, Dulce Mémoire, et le musicien soudanais Yoyon Darsono. Dans un spectacle qui a eu lieu récemment à Jakarta, les deux types de musique ont collaboré sur un projet musical intitulé « La terre qui a disparu » du palais à la résidence des rois de France. L'attaché culturel de l'ambassade de France en Indonésie, Didier Fuyeko, a déclaré que la musique soudanaise était choisie de collaborer parce qu'ils sont les musiques anciennes de l'époque de la Renaissance.
Pourquoi avoir voulu marier la musique de la Renaissance?
Pourquoi la collaboration entre la musique à l'époque de la Renaissance avec la musique soudanaise? Parce que tous les deux sont de la musique ancienne du 14e, 15e, 16e siècle, tandis que la musique soudanaise est également à la même période. Festival Printemps français a eu lieu en Indonésie depuis 2004. Ce festival a présenté des spectacles d'artistes de la France et aussi de l'Indonésie et a encouragé diverses formes de collaboration, de résidences et de concerts ensemble. Le deuxième Festival Printemps français 2016 présente 50 présentations des arts et des cultures telles que la musique classique et contemporaine, marionnettes, danse, littérature et l'architecture. Le Printemps français 2016 a eu lieu de 28 avril au 11 juin 2016 dans 10 villes indonésiennes. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement de la République démocratique du Timor-Leste, Constancio de Conceição Pinto, a invité les hommes d'affaires indonésiens à investir au Timor-Leste. Selon lui, le Timor-Leste a des occasions d'investissement dans les domaines de la plantation, de la pêche et du tourisme. Constancio da Conceição Pinto a expliqué vendredi à Jakarta l'un des efforts du Timor oriental pour inviter l'investissement de l'Indonésie était à travers la signature du protocole d'attente de la coopération technique industrielle avec le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie. Cette coopération couvre le renforcement des capacités des ressources humaines, le renforcement des capacités institutionnelles, des programmes de formation dans certains domaines industriels, ainsi que la promotion des produits industriels. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie Saleh Husin a déclaré que le gouvernement indonésien a engagé à soutenir le gouvernement du Timor-Oriental avec une valeur de 6 millions de dollars américains. Ces fonds sont décaissés pour la période 2013 à 2017 à travers des programmes de coopération technique d'outre-mer effectués par divers ministères et organismes. Le chef du conseil de coordination des investissements, Franck Sibarani, a évalué que l'espace de la coopération d'investissement indonésien avec la Nouvelle-Zélande est grand ouvert. C'est ce qu'a affirmé Franck Sibarani devant les investisseurs néo-zélandais dans le forum de l'investissement Indonésie-Nouvelle-Zélande organisé par l'ambassade d'Indonésie à Wellington en coopération avec le conseil de coordination des investissements à Auckland vendredi. Franck Sibarani, dans un communiqué de presse reçu par RRI vendredi, a affirmé que l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande étaient les deux voisins avec l'économie mutuelle complémentaire. Les produits laitiers et les produits excellents de la Nouvelle-Zélande, comme du lait, le fromage et l'huile d'olive, sont devenus une partie intégrante de la famille d'Indonésie jusqu'au présent. Du côté de l'Indonésie, les produits d'exportation vers la Nouvelle-Zélande étant papier et pâte à papier, du textile et des produits chimiques. Selon Franck, depuis 2010 à 2015, la réalisation de l'investissement de la Nouvelle-Zélande s'est élevée à 38,2 millions de dollars américains. De cette somme, 77% ont été réalisés dans l'industrie alimentaire. Le ministre de la Thaïlande du bouddhisme, Vénérable Prabhomasit, a visité le temple Borobudur à la région de Magelang, en province des Affaires centrales, vendredi. La visite du ministre Masit a été reçue par Retno Hardiasiwi en tant que directeur des opérations de PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan et Ratu Boko, et Marcis Sutopo, chef du centre de la conservation de Borobudur. Vénérable Prabhomasit admirait la diversité en Indonésie. Selon lui, la majorité de la population de l'Indonésie est musulmane, mais Borobudur, qui est un temple bouddhiste, était bien maintenu. Retno Hardiasiwi a affirmé qu'il y a 150 ans, le roi du royaume thaïlandais avait été présent au temple de Borobudur. La réunion actuelle pourrait renforcer les relations harmonieuses entre l'Indonésie et la Thaïlande, en particulier les bouddhistes en Thaïlande et d'autres pays à visiter le temple Borobudur. Il a dit que cette visite pouvait établir une bonne relation entre la Thaïlande et l'Indonésie, en particulier PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan et Ratu Boko. Le gouvernement malaisien est intéressé à construire la centrale à vapeur sur l'île de Sebatik, la résidence de Nunukan, Kalimantan du Nord, avec la capacité d'environ 400 MW. Selon le gouverneur Kalimantan du Nord, Irianto Lambri, dans un communiqué de presse récemment, la construction de cette centrale est la proposition du gouvernement de la Malaisie par l'État de Sabah, qui est directement adjacente à l'île de Sebatik, Indonésie. Le gouvernement provincial de Kalimantan du Nord est prêt à donner l'autorisation conformément à l'autorité parce que les chances sont très grandes avec la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Selon Irianto Lambri, la coopération peut se faire par un consortium impliquant les entreprises locales parce que le coût est estimé à 1 million de dollars américains par mégawatt. En outre, on va également coopérer avec PTPLN Persero afin de construire un réseau qui relie Tawan Negeri Sabah avec l'île de Sebatik, Indonésie. Le gouvernement provincial de Kalimantan du Nord a choisi l'île de Sebatik comme l'emplacement de la centrale parce que la Malaisie a construit une transmission de Tawau à l'île de Sebatik, donc continuer sur le territoire de l'Indonésie à Nunukan. Nahdlatul Ulama organisera le sommet international du leader islamique modéré, ISOMIL, qui a eu lieu à Jakarta du 9 au 11 mai comme un effort pour dissoudre le conflit au Moyen-Orient et certains pays d'Asie. C'est ce qu'a été déclaré le président du comité ISOMIL, Imam Aziz, récemment. ISOMIL est moyen de la diplomatie pour les pays islamiques qui ont été touchés par le conflit. Selon Imam, l'Indonésie comme le plus grand pays musulman du monde dont la position est neutre dans le conflit international, qui est susceptible d'être un médiateur dans le conflit impliquant des musulmans dans divers pays. Nahdlatul Ulama une expérience dans un certain nombre de résolutions de conflits à l'intérieur et à l'étranger, y compris en Afghanistan. Le conflit au Moyen-Orient vient du radicalisme qui est ensuite propagé à travers le monde. Le radicalisme va continuer à croître et à se répandre dans divers endroits et faire des conflits, ce qui est difficile à résoudre. C'est là le rôle actif de l'Indonésie dans l'application de la diplomatie internationale qui est attendu par de nombreuses parties. Par conséquent, NU a initié la réunion des dirigeants du monde islamique. On souhaite que cette réunion puisse produire une résolution et un accord entre les pays musulmans afin de mettre fin au conflit en empêchant la propagation du radicalisme. Chers auditeurs et auditrices du monde entier, c'était le journal aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici la revue de presse. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens à Paroi de Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Kompas qui a écrit dans son éditorial le crédit qu'a émis sur le pour et le contre de la peine de mort. La question de le pour et le contre de la peine de mort réapparaît avec un plan d'exécution volume 3. Les conditions sont les mêmes, telles que le plan de la peine de mort volume 1 ou 2 sera réalisé. Les procureurs généraux incluent dans le groupe les pros, ceux qui veulent conserver la peine de mort dans le livre de loi sur le droit pénal. Ils face au groupe qui veut abolir la peine de mort du code de procédure pénale. Kompas a écrit, leur droit en tant que condamné doit être respecté. Chaque décision du juge est toujours fondée sur l'objectif pour rétablir la justice. Les contrats interrogent sur l'abolition de la privation des droits de vivre et la liberté humaine. Au contraire, les purs estiment que la peine de mort est le meilleur moyen pour faire face aux grands crimes comme les cas de drogue et le terrorisme. Selon Kompas, la peine de mort en Indonésie est toujours considérée comme le droit positif, notamment concernant les crimes de drogue et le terrorisme. Voilà pourquoi le groupe de purs y compile le procureur général dans le plan de la peine de mort de troisième partie. Cependant, le quotidien Republica a écrit dans son éditorial lundi 2 mai, le moment de l'amélioration de l'éducation. Lundi 2 juin, l'Indonésie commémore la Journée nationale de l'éducation. C'est le moment pour continuer d'améliorer la qualité de l'éducation. L'éducation est le mot clé de la gloire d'une nation. Sur la base des données du ministère de l'Éducation et de la Culture en 2015, à partir de 6 982 districts en Indonésie, 635 districts ne disposent pas d'un lycée, y compris le nombre de salles de classe endommagées. Selon le quotidien Republica, cette question doit certainement attirer l'attention du gouvernement régional et central. La Journée nationale de l'éducation est le moment pour créer une école comme un lieu ou une maison étant sympathique ou sûre pour les enfants. Ce quotidien espère le système éducatif dans ce pays peut créer la génération indonésienne pieuse et intelligente. L'avenir de cette nation sera déterminé par la qualité de l'éducation aujourd'hui. Nous finissons la revue de presse par l'éditorial de quotidien Tempo. Le titre de son éditorial de mardi 3 mai est la libération des otages inachevée. La libération de 10 équipages de navires indonésiens du groupe Abu Sayyaf aux Philippines est le succès qui doit être apprécié. De plus, il est vrai que le processus se déroule sans rançon et ne conduise pas à l'effusion de sang. Selon le quotidien Tempo, toutes les parties ne doivent pas avoir peur de la menace des ravisseurs, en particulier d'échanger des vies avec de leur sang. L'excitation sur la lecture de 10 otages n'est pas divulguée excessivement parce qu'il y a encore 4 citoyens indonésiens et quelques autres personnes en attente libérées de Abu Sayyaf. Le négociateur à la liaison dans le sud des Philippines travaille encore pour résoudre ce problème. Ce quotidien espérait la diplomatie et une bonne communication pour adoucir l'attitude du groupe rebelle, dont il veut libérer les prisonniers sans condition. Ces amis, c'était notre revue de presse aujourd'hui.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie, l'édition 7 mai. Nous allons commencer au 7 mai 1915 en sous-marin coule le Lusitania. Le sous-marin allemand U-20 torpille le paquebot britannique Lusitania en provenance de New York au large d'Irlande. Le bateau coule rapidement et sur le 1959 passagers, 1198 dont 128 Américains meurent. Ce drame choque l'opinion publique américaine. De plus en plus favorable à l'engagement militaire contre la puissance centrale, en 1917, l'empereur Guillaume II proclamera la reprise de la guerre sous-marine à outrance et le président Wilson déclarera la guerre à l'Allemagne. On change le 7 mai 1988, congrès européen à La Haye. Sous l'impulsion du Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne, près de 800 délégués et de toutes les tendances politiques européennes se réunissent à La Haye. Quelques représentants du Canada et des États-Unis sont également présents. C'est Winston Churchill qui est chargé de présider le congrès en septembre 1946. Lors d'un discours à Zurich, ce dernier avait déjà montré son intérêt pour une éventuelle création des États-Unis d'Europe. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une unité européenne revient au premier plan et se renforce dans les esprits. Le but du Congrès est de mettre en place une union européenne économique, politique, culturelle et monétaire. De cette réunion naîtra le mouvement européen et le Conseil de l'Europe. On change le 7 mai 1949 l'accord de Rome van Rooyen. L'accord de Rome van Rooyen était un accord conclu entre l'Indonésie et les Pays-Bas le 7 mai 1949, le nom étant dérivé entre les deux principaux négociateurs lors de la réunion, Mohammad Rum et Jan Herman van Rooyen. Le but de la réunion était d'aplanir la question en suspens avec l'indépendance de l'Indonésie qui devait être accordée à la conférence de la table ronde à La Haye plus tard cette même année. La principale préoccupation qui en était convenue était le suivant. 1. Force armée indonésienne a cessé toutes les activités de la guérilla. 2. Le consentement du gouvernement républicain indonésien pour assister à la conférence de la table ronde. 3. Restauration du gouvernement républicain indonésien à Yogyakarta. 4. Les troupes néerlandaises de cesser toutes les opérations militaires et de libérer tous les prisonniers de guerre. On termine au 7 mai 1954 la chute de Dien Bien Phu. Retrancées dans la région de Dien Bien Phu, les forces françaises sont envahies par les troupes communistes du Viet Minh, alors sous le commandement du général Giap. Les Français dirigés par le colonel de Castries ont résisté avec détermination pendant près de 60 jours. Mais une fois la base tombée aux mains de Firmini, ils sont contraints à la capitulation. Les accords de Genève, signés le 21 juillet, mettront fin au conflit. La France devra alors quitter l'intégralité du territoire vietnamien, quand au Vietnam, il sera divisé en deux. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, écoutons la mise au point aujourd'hui. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a officiellement ouvert le 12e sommet international du commerce et de l'investissement jeudi à Jakarta, International Expo Kemayoran Jakarta Central, l'événement qui est initié par l'association du gouvernement de régence de toute l'Indonésie, ou APKASI. Président présente environ 200 résidences en Indonésie. Cet événement a lieu de 5 au 7 mai 2016. Dans le discours d'ouverture, Yusuf Kalla a exprimé sa grande appréciation pour les responsables gouvernementaux locaux qui continuent à travailler pour développer la région et tout le potentiel dans les régions respectives. Selon le vice-président, cet événement est devenu une bonne occasion pour les gouvernements locaux pour améliorer le bien-être de la société, en particulier dans les zones rurales. Le vice-président Yusuf Kalla a apprécié les raisons qui ont participé à l'exposition du Sommet international du commerce et de l'investissement d'APKASI. Selon lui, le progrès d'un pays dépend des unités d'affaires dans ce pays. Le vice-président a expliqué qu'il possédait les entreprises dans la région doivent avoir au moins 3 compétitivités clés, à savoir le meilleur produit, le prix moins cher et le temps de traitement plus rapide. Le vice-président a ajouté que la région a déjà ces 3 éléments. Les produits indonésiens peuvent certainement concurrencer avec les produits de l'étranger. Dans cette exposition, chaque région affiche les produits et les services excellents de leur région, tels que la nourriture, le potentiel touristique et le culturel. À cette occasion, Yusuf Kalla a assisté à l'investiteur du conseil d'administration d'APKASI pour la période 2015-2020 avec le président d'APKASI, Mahaji Maming Mardani, qui sert actuellement en tant que régente de Tanah Bumbu, Kalimantan du Sud. Cette investiture a été menée par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo. Dans son discours, le vice-président Yusuf Kalla a rappelé aux régions que la fondation principale de la région est une activité productive avec l'innovation et la créativité de chaque région. Les efforts des gouvernements locaux d'encourager leur communauté pour l'innovation et la créativité de la production locale peuvent être le paramètre du succès l'autonomie dans cette région. Yusuf Kalla a déclaré que les résultats de l'autonomie régionale étaient déterminés c'est que cette région améliore le bien-être ou non. Cela est marqué par une variété d'indicateurs. L'un de ces indicateurs est la capacité du gouvernement local à financer leur région avec les produits locaux. Ces amis, c'était la mise au point aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Rencontrons-nous de nouveau dans le programme Le Magazine Culturel. Pour ce soir, ayant pour le titre, l'île Pahawang dans la province de Lampung.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Serditeur, l'île Pahawang est un nouveau paradis pour les amoureux de sous la mer. Ces récifs coralliens qui sont encore en bon état et divers poissons sont sa propre attraction. Cette île est située dans le sud de Lampung, précisément à sous-communauté de Punduh Pedada, la résidence de Pesawaran. L'étendue de l'île Pahawang est environ 1084 hectares et se compose de Pahawang Besar et Pahawang Kecil. Serviteur, l'île Pahawang se compose de 6 hameaux, à savoir Suak Buah, Penggetahan, Jeralang, Kalangan, Pahawang et Cukuh Nyai. Sur cette île de Pahawang Kecil, il y a un pont naturel, à savoir Tanjung Putus. Le pont de Tanjung Putus relie entre l'île de Tanjung Putus et l'île de Pahawang Kecil. Le pont de Tanjung Putus peut être vu quand les eaux de la mer sont à marée basse, parce que quand la marée haute, ce pont est trempé dans l'eau de mer. La zone de Tanjung Putus est aussi l'un des endroits préférés pour les plongeurs. De l'île Pahawang Kecil à l'île Pahawang Besar, il prend le temps d'environ 10 minutes. La plupart des visiteurs restent à l'hébergement sur l'île Pahawang Besar parce que la plupart des populations locales vivent sur cette île. Serviteur, pour aller à l'île de Pahawang, vous devez partir de Bandar Lampung, la capitale de Lampung. D'abord, vous devez aller à la place Clara, située dans la résidence de Pesawaran, parce que cette place est un point de passage à l'île de Pahawang. De Bandar Lampung à la place Clara, il prend environ 70 jusqu'à 90 minutes. Puis, de la place de Clara, vous pouvez louer un bateau de pêcheur pour traverser à l'île Pahawang. Ce bateau peut accueillir environ 15 personnes. Si vous oubliez ou ne pas apporter votre propre équipement de plongée en apnée, vous ne devez pas vous inquiéter parce que vous pouvez louer l'équipement à la plage. Pour aller à l'île Pahawang, il prend environ 90 minutes. Serviteur, faire la plongée en apnée sur l'île de Pahawang, nous garantissons que vous ne serez pas dessous, parce que l'île offre un paysage sous-marin impressionnant. Lorsque la plongée en apnée, vous pouvez apporter un pot de pain pour nourrir divers poissons d'ornement sur la mer, de sorte que le poisson va vous approcher. Il est très excitant et impressionnant. Serviteur, si vous êtes en Indonésie, s'il vous plaît, configurez votre temps de prendre des vacances sur l'île de Pahawang. Cette île est accessible facilement à partir de Bandar Lampung. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles auditeurs de la Voix de l'Indonésie, nous sommes heureux de vous rencontrer de nouveau dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, nous vous présentons des informations sur la police construisant la première clinique flottante en Indonésie. Assurez-vous que vous restez toujours avec nous à RRI, le service mondial La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, Banjarmasin est la capitale de la province de Kalimantan Sud. La ville mesurant 72 km² est surnommée la ville aux mille rivières parce que la ville a de nombreuses rivières. Comme la preuve, Banjarmasin lui-même est situé au bord de l'est de la rivière Barito, éclivé par la rivière Martapura, et à l'amont au mont Meratus. Par la communauté locale où le fleuve a été utilisé comme moyen de transport de l'eau, le tourisme, la pêche et le commerce. En outre, la rivière est maintenant aussi utilisée comme lieu de la fondation d'une clinique flottante. La clinique flottante est au bord de la rivière Martapura qui divise la ville de Banjarmasin. Récemment, l'hôpital Bayangkara, via la police régionale de Kalimantan Sud, construit une unité clinique ayant de concept flottant, dans le siège de la direction de police régionale de Kalimantan Sud. La clinique a été construite pour fournir l'accès aux soins de santé plus large à la société Banjarmasin, en particulier ceux qui vivent près de la rivière Martapura. En outre, la clinique flottante est apte à exister à Banjarmasin parce qu'elle est soutenue par de nombreuses courses d'eau qui traversent la ville. Le développement de cliniques flottantes est également une nouvelle percée qui est faite par la police en Indonésie, parce que la clinique est le seul en Indonésie. On espère également que la clinique flottante pourrait être un modèle pour d'autres régions de l'Indonésie, en particulier les zones qui ont les spécifications des bassins versants. La clinique flottante dispose de 3 salles d'hospitalisation, d'ambulances d'eau et de médecins. La fondation est faite à partir de bois de Kalimantan comme bois de fer, meranti ou bangkirai. Ce bois est assemblé de telle manière de sorte qu'il puisse flotter au-dessus de l'eau. Puis sur la fondation, on a établi le bâtiment flottant. Le bâtiment est soutenu par centaines de bois de fer pour former une sorte de maison sous pilotis. Le concept de la clinique flottante par la police à la fondation de Rigid Vertical. Par conséquent, la clinique flottante n'est pas oscillée lorsqu'elle est frappée par des vagues. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour aujourd'hui.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour ses amis, la voix d'Indonésie, la bonne d'India, avec moi Yubi Suryanto. Voici le magazine de Planginada, ou magazine de musique qui présente la musique traditionnelle, indonésienne et moderne. Ce soir, je présenterai une chanteuse indonésienne qui s'appelle Isyana Sarasvati. Chez l'auditeur, on écoutera sa première chanson intitulée « Rester dans l'âme ».
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Isyana est une chanteuse et est également l'auteur et compositeur de la chanson. Elle est née à Bandung le 2 mai 1993. Après avoir diplômé de Nanyang Academy des Beaux-Arts, Singapour, elle a poursuivi son étude au Royal College of Music en Angleterre. Elle a gagné beaucoup de prestations et a reçu de nombreux prix. Elle est apparue comme une chanteuse d'opéra à Singapour. Son premier album, intitulé Explorer, publié le 25 novembre 2015. Cet album contient 10 chansons. La plupart des chansons de cet album sont sa propre création. Chers amis, voici une chanson intitulée Tué, chantée par Isyana Sarasvati.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
As I can bear recording, it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu,
yeah.
Kau adalah yang terindah. Yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut. Sebab kau terima segalaku.
sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? Oh, I don't lie.
Yeah.
Selon Isyana, pour créer une chanson, elle était inspirée des histoires réelles des Esamis. Elle peut également jouer quelques instruments de musique, entre autres le piano. Elle a joué souvent le piano en chantant la chanson Tué et la collaboration avec un chanteur du groupe Ran, Rayiputra. Le genre de cette chanson est pop, qui est unique car son concept des arrangements est groovy, couvert par R&B, qui fait cette chanson possède une fraîcheur différente dans l'industrie de la musique indonésienne. Je jamais avant de terminer cette rubrique musicale, on écoutera deux chansons de Isyana intitulées Keep Being You et All or Nothing. Bonne écoute et au revoir.
Yes, you, baby, we could be together, and nothing but your love forever. I can be a lover, you can be my lover, I won't need nobody but you. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I feels rich when you're near me. There is no emptiness. It's special love and I can feel it deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you for the greatest gift of all. Just the way that you
just keep.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.